Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Fréquence Mistral. Nous avons le plaisir de recevoir Arnica Montana et Claude Rémy, son président. Bonjour Claude Rémy.
Bonjour.
On va parler aujourd'hui histoire de prédateurs et histoire de serpents.
Les serpents sont des prédateurs d'ailleurs, hein, mais qui sont souvent mal perçus par l'opinion publique. Et les animaux et les phénomènes naturels font d'ailleurs souvent l'objet d'idées fausses ou d'a priori colportés, le plus souvent de bonne foi par le public. La connaissance scientifique de notre environnement permet de tordre le cou à ces nombreuses rumeurs. Et nous évoquerons donc aujourd'hui celles qui sont relatives aux prédateurs et aux serpents. Alors, le terme prédateur est souvent utilisé avec une signification péjorative. On pense à un animal, voire un personnage sanguinaire et cruel. En écologie, alors là, quand je parle d'écologie au sens scientifique, c'est-à-dire l'écologie, qui est une science, logie, c'est une science qui étudie la faune, la flore, hein, les êtres vivants et les relations entre les êtres vivants entre eux, les êtres vivants et leur environnement. C'est ça, la véritable écologie. Donc, le terme de prédateur est utilisé en écologie pour désigner un organisme vivant qui met à mort ses proies pour s'en nourrir ou nourrir ses jeunes. Cela désigne aussi bien un poisson carnassier, un insecte mangeant un autre insecte, un rouge-gorge, qui est essentiellement insectivore, un rapace ou un loup. Le terme de prédateur frappe les imaginations. Il est souvent à l'origine d'idées fausses ou d'inepties. Et je me souviens, il y a déjà pas mal d'années, d'une réunion de la commission départementale de la chasse faune sauvage, où un responsable de fédération de chasse a déclaré avec haine en parlant d'un rapace, il est vicieux car attaque le gibier par derrière. Il y a plus de 10 ans, lors d'un débat parlementaire sur une loi chasse, un député a carrément comparé les cormorans à des bombardiers nazis. Tel argument dans un hémicycle où on est chargé d'élaborer et de voter des lois est tout à fait affligeant, voire inquiétant, et fait preuve d'un obscurantisme le plus profond. Malheureusement, ce n'est pas le seul argument de ce type qui a été lancé dans ce débat pour essayer de justifier la destruction de prédateurs. Comme tout animal, un prédateur doit trouver dans sa nourriture une source d'énergie nécessaire à sa survie. Il n'attrape évidemment pas une proie par cruauté, mais pour survivre. Il n'est pas plus cruel en mangeant une proie que lorsque l'on consomme un steak. Un animal doit trouver dans sa nourriture l'énergie nécessaire à sa survie. La capture de la proie entraîne une dépense énergétique. Évidemment, le prédateur doit dépenser moins d'énergie pour capturer sa proie que l'apport énergétique que celle-ci va lui apporter. Sinon, il ne survivra pas longtemps. Un prédateur est donc partisan de la loi du moindre effort. Il capture l'animal le plus facile à attraper. C'est souvent un animal malade, affaibli, qui va attirer son attention. Et nous allons prendre deux exemples. René-Jean Monneret, qui est le spécialiste français du faucon pèlerin. Le faucon pèlerin, c'est un rapace qui se nourrit d'oiseaux qu'il capture en vol. Donc René-Jean Monneret a constaté sur des oiseaux de fauconnerie que 50% des proies du faucon pèlerin étaient des jeunes de l'année ou des oiseaux présentant une anomalie, une patte pendante, une mue défectueuse, une malformation du bec, des nodules sur le foie ou les poumons. C'est la sélection naturelle qui permet aux animaux les plus vaillants de survivre plus longtemps, de mieux se reproduire et de transmettre ainsi à leurs descendance leur patrimoine génétique favorable. Le prédateur peut aussi limiter les épidémies dans des populations de proies. Des études menées sur l'île Royale, située à la frontière entre les États-Unis et le Canada, ont montré que la majorité des proies attaquées par des loups présentaient des infections de la moelle osseuse. Les Inuits qui vivent au nord du Canada, de l'Alaska et au Groenland l'ont bien compris depuis très longtemps et sans faire d'études scientifiques puisqu'ils considèrent dans leur légende le loup comme le médecin. Un prédateur peut-il à lui seul limiter les populations de ses proies? Et là, nous allons prendre un exemple. Un renard consomme 6 000 à 10 000 campagnols par an. Une chouette effraie capture environ 2 000 campagnols par an. Alors, ça semble énorme, mais le taux de reproduction des campagnols est également très important puisqu'il y a 4 à 8 petits par portée et 3 à 6 portées par an. Ce qui fait 1 200 individus produits par an et par hectare de prairie. Un seul prédateur ne sera donc pas suffisant pour limiter de façon significative la population de ses proies, même s'il peut y contribuer, bien sûr, de façon non négligeable. Dans un milieu naturel, c'est la diversité de prédateurs d'une espèce qui peut limiter ses populations. C'est la diversité qui crée l'équilibre. Il est donc nécessaire de protéger l'ensemble de la biodiversité pour ne pas rompre cet équilibre fragile. Ne l'oublions pas. Un prédateur n'entraîne jamais la disparition de ses proies, sinon il provoquerait sa propre disparition par manque de nourriture. Si l'on prend toujours l'exemple des campagnols, les populations population de campagnols peut s'effondrer par des épidémies, par des conditions climatiques défavorables, etc. La baisse de la nourriture va entraîner une baisse de reproduction du prédateur qui va voir ses effectifs diminuer. La proie régule donc également les effectifs de son ou de ses prédateurs. Peut-il y avoir, comme on l'entend souvent, une surpopulation de prédateurs? Un prédateur délimite un territoire qui lui permet d'avoir suffisamment de nourriture pour se nourrir et nourrir ses jeunes. La taille du territoire varie selon l'abondance de la nourriture. En moyenne, pour un rouge-gorge, le territoire est d'environ 120 mètres carrés. Mais pour un aigle royal, c'est environ 100 km carrés. Pour éviter toute compétition alimentaire, le prédateur défend avec vigueur son territoire et y empêche l'entrée d'un animal de la même espèce, sauf bien entendu sa femelle. Il ne peut donc pas y avoir surpopulation de prédateurs. Lorsque tous les territoires d'un secteur géographique sont occupés, les jeunes, lors de leur émancipation, vont devoir parcourir parfois de longues distances pour trouver un territoire de libre. Les serpents sont des prédateurs et ces serpents suscitent des réactions de frayeur, de répulsion et parfois même des phobies. C'est sans doute pour cette raison qu'ils sont à l'origine de si nombreuses rumeurs et d'idées reçues. Combien de fois a-t-on entendu dire que les vipères prennent leur queue dans leur gueule pour dévaler les pentes comme un cerceau pour vous rattraper plus vite et vous mordre? Totale absurdité. On dit parfois que les vipères à spic de couleur rouge sont plus dangereuses que les brunes. Comme tous les êtres vivants, il y a une diversité génétique au sein d'une même espèce qui peut se traduire par des variations individuelles de couleur et le venin est identique quelle que soit la couleur. Les vipères piquent-elles ou mordent-elles? Évidemment, elles n'ont pas de dards, contrairement aux guêpes, aux abeilles, aux scorpions. C'est avec leurs dents qu'elles injectent leur venin. On pourrait donc dire qu'elles mordent. Mais les dents antérieures, appelées crochets, sont creuses et reliées à une glande à venin. Lorsqu'une vipère capture une proie, le plus souvent un petit rongeur, la glande à venin se comprime et injecte le poison dans la proie. Celle-ci est relâchée et sera retrouvée un peu plus tard lorsque le poison aura agi. Il s'agit donc d'une véritable injection et à mon avis, il n'est pas faux de dire qu'il s'agit d'une piqûre. Si le venin de vipère peut être dangereux et nécessite d'appeler les secours, il faut savoir qu'il y a plus de morts en France par piqûre d'abeille que par piqûre de vipère. On dispose généralement de quelques heures pour faire intervenir les secours. Il faut éviter de courir pour ne pas accélérer la diffusion du venin par le sang. Quelques précautions sont à prendre pour éviter de surprendre une vipère qui voudra se défendre, par exemple. Évitez de mettre les mains dans une végétation dense, même dans votre jardin, pour prélever une plante. Faut-il faire du bruit pour faire fuir une vipère? On dit parfois que les vipères sont sourdes. Qu'en est-il? Les serpents n'ont pas d'oreille externe, mais ont une oreille interne fonctionnelle. Leur audition n'est donc pas développée, mais ils sont sensibles à d'infimes vibrations du sol. Ces vibrations sont perçues par les mâchoires inférieures, puis transmises à l'oreille interne par l'intermédiaire d'une chaîne d'os, comparable aux osselets et l'oreille moyenne humaine. Le moyen le plus sûr pour faire fuir une vipère avant d'entrer dans un endroit suspect est donc de taper des pieds pour provoquer des vibrations au sol. On accuse parfois les serpents de téter le lit des vaches. Encore une ineptie. D'une part, les serpents ne se nourrissent pas de lait, ce ne sont pas des mammifères. Et d'autre part, la morphologie de leur mâchoire ne permet pas la succion d'un pied de vache. Si on observe parfois un liquide blanchâtre sortir du cloaque d'un serpent écrasé, il ne s'agit pas de lait, mais de l'urine très concentrée de l'animal. On dit parfois que les serpents sont froids et gluants. Encore une légende. Si on touche un serpent, son corps est lisse, doux et non pas gluant. Comme tous les reptiles, les serpents sont des animaux qui ne maintiennent pas leur température interne constante, contrairement aux mammifères et aux oiseaux. La température des serpents varie donc avec la température extérieure, donc suivant les conditions climatiques et suivant les saisons. Un serpent froid et soit mort, soit en léthargie, ne pourra pas, dans ce dernier cas, faire de mouvements rapides. S'il se fait dorer au soleil, il sera plus chaud et beaucoup plus vif. Et les lâchers de vipères dans la nature, qu'en est-il? C'est encore une absurdité qui a la vie dure. Dans chaque département, et même dans les Hautes-Alpes, on entend des histoires de lâchers de vipères par les écologistes. Certains affirment même que des caisses bourrées de vipères ont été jetées depuis un hélicoptère. On peut se demander d'ailleurs dans quel état ces malheureuses vipères arriveraient au sol. Curieusement, la personne qui affirme ces rumeurs n'a jamais vu directement ce prétendu lâcher. C'est toujours un ami, ou un ami d'un ami, ou un cousin qui en aurait été témoin. Le naturaliste Jean-François Noblet pense que cette rumeur prend toujours naissance en milieu rural lorsque deux populations s'affrontent, chasseurs, agriculteurs, écologistes, etc. Le but serait de diffamer l'adversaire. Évidemment, les lâchers de vipères n'existent pas. Ces reptiles étant suffisamment nombreux, cela ne se justifierait nullement. D'ailleurs, les écologistes n'ont pas les moyens de louer des hélicoptères. N'oublions pas qu'en France, tous les serpents sont protégés par la loi, même les vipères. Si la loi n'interdit pas de tuer une vipère en cas de danger, elle interdit, comme pour tous les autres serpents, sa mutilation, son transport, sa vente, son achat, qu'elle soit morte ou vivante. Comme tous les animaux, les serpents jouent un rôle dans les écosystèmes Laissons-les tranquilles. La connaissance des écosystèmes et de leur fonctionnement est nécessaire pour mieux comprendre et protéger leur fragile équilibre. Elle permet également d'éviter de déclarer des absurdités préjudiciables à la protection de la biodiversité. Pour mieux comprendre et ainsi contribuer à préserver l'environnement, vous pouvez bien sûr nous rejoindre, Arnica Montana.
Merci beaucoup.